Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Daniel Defer. Ce soir, la création d'Eds.
Bonsoir Daniel Defer.
Bonsoir.
Hier soir, nous avons terminé l'entretien avec votre récit de La maladie de Michel Foucault. Michel Foucault meurt le 25 juin 1984 et vous décidez de créer une association pour aider les malades du sida. Et vous le décidez très vite. Elle voit le jour quelques mois plus tard. Et vous avez dit après, dans un entretien à Libération, je ne pouvais pas parler pour lui, pour Michel Foucault, mais je ne pouvais pas ne rien faire. Parler pour lui, c'était...
Non, pas dire... Oui, c'était... Je ne pouvais pas...
Dire à sa place, enfin, oui, utiliser...
Utiliser même son nom, ouais. Utiliser son cas, parce que je suis à la fois très respectueux de l'éthique médicale. La maladie, le malade peut en parler, le médecin ne peut pas, et l'entourage non plus. Et dans une maladie extrêmement stigmatisée à l'époque, c'était pratiquement une dévalorisation de la personne qui était proposée. C'est ce qui a été pratiquement dit dans Libération, c'était énorme, c'était un article malheureux de gens qui sont parfois, que j'aimais bien les gens de Libération, mais qui fait un article. On prétend que c'est le sida comme si on avait voulu qu'il meure ignominieusement. Enfin, c'est à peu près ça que dit l'article, ce qui est énorme, énorme. Parce que non seulement on admet que c'est un stigmate, mais je veux dire, la dénégation était aussi ignoble que l'affirmation. Enfin, bon. Donc il était exclu de parler du cas. Progressivement, ça s'est fait forcément, mais parce qu'il aurait été aussi très gênant de faire le silence sur quelque chose qui n'aurait de toute façon été su, on n'aurait pas compris ce silence. Nous avions été toujours dans un rapport à la vérité. Nous avions toujours été dans un combat sur des enjeux de vérité. La question de la vérité est une question centrale de la philosophie de Foucault. Et c'est une approche nietzschéenne, ce n'est pas une approche de la vérité très très problématisée, comme Nietzsche l'a problématisée. Donc il n'était pas question d'en faire un étendard, parce que c'était contraire à l'éthique médicale, mais il n'était pas question d'en faire une honte ou un silence. Donc il fallait trouver une solution, et la seule solution, c'était de faire quelque chose et pas de dire quelque chose. En plus, je n'avais pas de notoriété pour dire des choses. Par contre, je savais un peu faire, parce que j'avais milité. J'avais milité, on travaillait en Algérie, j'avais milité surtout avec Foucault dans le groupe Information sur les prisons. Et ayant milité avec Foucault, il y avait deux choses. Je savais faire, et puis je continuais à être avec lui. C'était, pour moi, c'était un peu mon deuil. Je faisais mon deuil avec lui, c'est-à-dire je continuais à faire les choses que nous avions faites ensemble. Et ça, ça comptait beaucoup pour moi. Ça, c'était vraiment ma manière d'affirmer mon deuil. Alors, il y avait une gêne, naturellement, c'était vis-à-vis de la famille de Foucault, parce que je sentais bien qu'il y avait une réticence. Sa nièce m'avait dit, vis-à-vis de notre grand-mère, tu n'aurais pas dû, et tout ça. Et Madame Foucault, la mère de Michel Foucault, qui était fille, épouse de professeur de médecine.
C'était une famille de médecins.
C'était une famille de médecins. Me dit un jour que nous écoutions justement une émission sur le sida où il y a une interview de Robert Gallo, l'autre prétendu découvreur du sida. Bon, vous savez l'histoire de cette découverte qui a été faite en France, mais que les Américains ont voulu s'approprier. Et nous écoutions l'interview de Robert Gallo, et Madame Foucault se tourne vers moi et elle me dit « C'est bien ce que vous avez fait pour les malades, pour lui, il fallait le faire ». Donc elle avait parfaitement compris, et là j'avoue que j'étais extrêmement soulagé. Et elle avait quand même cette appartenance au monde médical, et elle avait compris « pour lui, il fallait le faire ».
Il y a un choix, Daniel Defer, que vous devez faire dès le départ, c'est être une association gay ou être une association de santé publique.
Oui.
Mais le choix, alors vous choisissez la deuxième solution, une association de santé publique, ouverte à tous, mais il ne s'est pas fait sans débat ce choix-là.
Absolument. Si vous voulez, moi, je ne savais pas comment aborder la question au départ. Au départ, pour moi, la question qui m'avait choqué, c'était le droit du malade d'avoir la vérité sur sa pathologie. J'estime que c'était une maladie qui atteignait quand même des gens jeunes. Foucault n'avait pas 57 ans. Moi, je trouvais aussi que par rapport à son œuvre, il n'avait toujours dit pas de publication posthume, ça, mais j'aurais aimé avoir plus d'indications pour quoi faire après. Enfin, il y a tout ça. Je trouvais que finalement, avoir la vérité sur sa maladie, pour moi, ça me paraissait un enjeu important et je voulais, au fond, faire une association plutôt juridique sur le droit de savoir, le droit du malade. Ce qui a été finalement un des grands enjeux de l'histoire de la lutte contre le sida, c'était le droit des malades, une loi qui a été présentée par Bernard Kouchner sur le droit des malades en 2002. Ouais. Et bon, alors j'avais lu dans Libération un article d'un jeune homme qui venait d'apprendre sa séropositivité. Et il disait que c'était insupportable de le savoir, ce qui mettait en question complètement mon projet. Parce que mon projet du droit de savoir, si c'était insupportable à le savoir, si effectivement c'était peut-être un peu court d'idée. Donc il fallait absolument rencontrer ce garçon pour discuter avec lui. Ce qui a mis du temps parce qu'il ne voulait absolument pas être connu et tout ça.
Il ne donnait pas ses,
et il ne donnait pas ses coordonnées. Finalement, ça a pris presque un mois. Pendant ce mois, j'étais parti en Angleterre. Et en Angleterre, je vois dans un journal... en Angleterre, je travaillais tous les étés à la British Library. Et j'en profitais pour lire toute la presse médicale parce que je ne savais pas en France quoi lire sur le sida. Je ne savais rien. Et je lis donc toute la presse médicale sur le sida, donc je me forme vraiment, et je suis sans arrêt confronté au mot AIDS, qui est le mot anglais pour sida, et d'où le nom de l'association. Et alors, je découvre dans un journal, Time Out, qui est un journal qui tient au courant de
la vie culturelle,
artistique, tout ça,
que je trouve
très intéressant, plus un de mes amis qui va dedans. Et dans Time Out, je vois « Si le sida vous inquiète, téléphonez tel numéro, Terence Higgins Trust ». C'était la première association créée en Angleterre avec une fondation au nom du premier malade qui avait laissé des fonds après sa mort. Je téléphone à cette association. Je leur explique que j'avais l'intention de créer quelque chose en France et je vais faire la permanence téléphonique avec eux. Donc, ils faisaient une permanence téléphonique, ils faisaient du soutien aux malades hospitalisés et de la prévention dans le milieu gay et une équipe qui s'appuyait totalement sur le milieu gay et tout ça.
Et ça, Daniel Lefer, la permanence téléphonique, ça nécessite un savoir-faire parce que vous pouvez avoir au bout du fil quelqu'un qui veut se suicider. Il faut savoir répondre, il faut un savoir juridique et puis un savoir psychologique.
Un savoir psychologique, un savoir médical aussi.
Oui, un savoir
parce
médical.
D'abord, nous, c'était surtout le savoir médical, parce que quand même, cette maladie, elle était inconnue.
Oui.
C'était vraiment une maladie nouvelle pour tout le monde, hein, pour le monde médical, tout ça. Donc, quand les gens nous disaient leurs symptômes, il ne fallait pas non plus les alarmer pour rien, mais en même temps, il fallait quand même savoir les aiguiller. Donc, il fallait connaître les symptômes, connaître la maladie quand même, ce qu'on en savait à l'époque, on ne savait pas grand-chose, hein, on connaissait que les symptômes. La définition était purement clinique. Hein. Il fallait aussi connaître les médecins, et parce que aiguiller les gens vers des médecins. Et il fallait aussi savoir soutenir et guider. Alors la question justement que vous évoquiez de tentative de suicide, c'est surtout aux États-Unis que j'ai appris ce problème-là, parce qu'aux États-Unis, bon, dans tous les pays anglo-saxons, le suicide, quand vous apprenez que quelqu'un a une intention de se suicider, vous en êtes un peu juridiquement responsable. Et vous devez donc pratiquement les prévenir le suicide. C'est ce que m'ont appris les militants de Shanti Project de San Francisco. Alors là, moi j'apprends un peu à faire la permanence téléphonique, je vois un peu, en plus je rencontre la plupart des gens qui avaient fondé cette association, ils m'expliquent que cette association a été bâtie à partir d'une expérience américaine. Dès 82, à New York, s'est créé le Gay Men's Health Crisis, c'est-à-dire la crise de la santé des hommes gays, donc un mouvement nettement lié à l'homosexualité masculine. Et à Londres, la notion était plus gommée, puisque c'était le trust de Terence Higgins, c'était le nom d'un malade, mais il n'y avait pas une identification de l'association, et il s'adressait à toutes sortes de malades. Donc quand je rentre en France, je me dis qu'il faut s'appuyer sur le milieu gay, et je reviens à Paris. Alors, une chose Il y a beaucoup de hasard dans ma vie, comme je vous ai raconté. J'ai rencontré ça Roland Barthes, la première fois que je vais dans un barnier, je rencontre Foucault la première sortie à Paris. Quand je rentre d'Angleterre, j'aperçois un garçon assez sympathique, que j'ai envie de connaître, comme ça, qui était un jeune Américain, et il se trouve qu'il était volontaire au Yemen's Health Crisis. Donc il m'a pu me transmettre beaucoup de choses. Donc, je reviens en France avec déjà l'idée d'une permanence téléphonique et tout ça. Et arrivé à Paris, je découvre que un de mes plus proches amis avait le sida, il le savait, et que son compagnon, qui est Gilles Barbedette, qui était un romancier qui commençait sa carrière de romancier, qui était un des fondateurs de Guépier, le premier grand journal gay, venait de faire son test et venait d'apprendre qu'il était séropositif. Il ne disait pas à son camarade pour ne pas le culpabiliser, parce qu'il était déjà très avancé dans la maladie, il avait suffisamment à vivre, ça. Donc, on est vraiment confronté à une proximité de la maladie. En l'espace d'un été, je sens ça se rapproche.
Il faut que vous trouviez des médecins.
Il faut constituer des médecins. Je fais venir d'abord des militants gays, de la presse gay, dans l'espoir qu'ils nous relaient. Ils se dérobent, ils refusent. On découvre véritablement une résistance du milieu gay qui, effectivement, le milieu gay venait de s'approprier les modes de vie américains. Le Marais venait juste de démarrer en 78. Donc, une espèce de visibilité dans la rue, une sorte de contre-culture urbaine qui s'affiche. C'était très différent de ce que j'avais connu dans les années 60, où les bars étaient secrets, cachés, ouverts la nuit, un peu plus chers qu'ailleurs.
Ça arrête leur élan.
Là, véritablement, ils veulent pas entendre. Cette maladie arrive au plus mauvais moment. Donc, ils refusent de soutenir. On est donc obligé de s'adresser à la grande presse, quoi. Et c'est finalement la grande presse et Libération qui fait un article, un reportage sur le projet d'association. Et tous les gens qui lisent l'article, enfin une partie des gens qui lisent l'article, nous écrivent. Et à ce moment-là, on voit que finalement, ils nous écrivent. Heureusement que ça a apparu dans la grande presse. Je peux en parler autour de moi. Si ça avait été dans Guépier, j'aurais peut-être pas osé en parler autour de moi et tout ça. Donc on voit très bien que finalement, l'assise ne doit pas être trouvée là où on croyait. Et c'est là que viennent très rapidement deux personnes que je connaissais depuis longtemps, Jean-Florian Métotal, qui était médecin gériatre, très important gériatre, parce que la gériatrie, c'est la maladie au long cours, et là, nous allions avoir une maladie chronique. Et donc, Jean-Florian Métotal, excellent médecin, qui vient, et son compagnon de jeunesse, Frédéric Edelman, qui était journaliste. Et alors là, je dois vous dire que Frédéric Edelman connaissait bien François Bleuclenné, qui était une personnalité très importante de la banque et de l'économie sociale, et qui avait des responsabilités au sein de la Fondation de France. Et nous lui demandons si la Fondation de France pouvait nous héberger, ce qui nous donnait tout de suite notoriété et défiscalisation pour les donateurs. Et effectivement, il a accepté notre dossier, de présenter notre dossier à la Fondation de France. On avait des recommandations de Jean Bernard, d'un certain nombre de médecins. Et en plus, si vous voulez, nous, pour être à la Fondation de France, c'est vrai que nous avons insisté sur l'aspect santé publique de l'association. Et donc, nous avons effectivement fait une rupture avec le modèle anglo-saxon d'association gay. C'est-à-dire, d'emblée, nous nous sommes adressés à l'ensemble des malades. Il y avait des usagers de drogue, il y avait déjà les premières personnes qui ont fait appel à nous, c'était les Haïtiens, les Haïrois. Donc, il y avait aussi en Afrique l'épidémie qu'on commençait à découvrir. Et puis, les hémophiles. Et alors, après, on a trouvé des transfusés. C'est-à-dire que d'emblée, un peu grâce à cette rencontre avec François Bleuclenné, nous nous sommes installés dans le champ de la santé publique.
Est-ce que vous diriez, Daniel Defer, que AIDE a fait la politique de santé publique en matière de sida en France ?
Je le pense. Oui. Je pense que c'est pas se gonfler les chevilles de le dire, parce que je dirais que la santé publique n'était pas véritablement problématisée comme telle en France. Deux raisons. Voyez par exemple l'histoire de la transfusion sanguine. Hein, c'est quand même énorme. Il a fallu faire une instance spécifique de révision totale. L'instance du médicament, les essais thérapeutiques, les essais de médicaments, la mise sur le marché du médicament. Il a fallu créer une instance. Vous voyez, encore récemment, on a eu des scandales sur la manière dont les médicaments étaient évalués, appréciés, mis sur le marché. Donc, il a fallu créer des instances de contrôle véritablement de santé publique, ce qu'on a appelé des agences de santé publique, l'agence de lutte contre le sida, l'agence française de lutte contre le sida qui a été créée par le professeur Gau, c'est lui qui avait quand même mis en place les ceintures en voiture, les premières campagnes de Claude Évin sur le tabac, l'alcool. C'est vrai qu'il y a une politique de santé publique qui a été obligée de se mettre en place. En plus, les maladies infectieuses était régi par une législation très archaïque, une législation très contraignante. On était encore dans le domaine des quarantaines, des contrôles aux frontières. Donc, est-ce que les gens allaient pouvoir circuler s'ils étaient séropositifs? Vous voyez, il y avait plein de problèmes. Vous savez quand même que la 4e conférence ou 5e conférence sur le sida qui s'est tenue à San Francisco, les gens qui avaient des médicaments contre le sida ne pouvaient pas prendre l'avion, ne pouvaient pas entrer aux États-Unis.
Et vous racontez aussi, Daniel, de faire dans votre livre d'entretien que lors des prises de sang vérifier ou infirmer une séropositivité, les infirmières mettaient des pastilles rouges sur le sang.
Oui, alors il y avait cette chose là
que vous avez, alors ça c'est quelque chose que vous avez
intervenu, c'est, si vous voulez, au lieu de prendre des précautions générales pour toute maladie, on mettait des pastilles rouges quand on connaissait la maladie du patient. Alors, si on prenait du sang de quelqu'un dont on savait déjà, ou qu'on soupçonnait qu'il avait le sida, on mettait une pastille rouge. Mais si on savait rien, on mettait rien. De même, les infirmières, et c'est vrai qu'il y avait des risques d'une mauvaise manipulation de seringues, il y a eu quelques cas rares, mais il y a eu quelques cas de transmission du virus à des infirmières ou des infirmiers. Et les pastilles rouges, elles les mettaient autant pour se protéger, mais des fois, on les mettait sur la pancarte qu'on accroche au pied du lit du malade. Ou des fois, on le mettait sur la porte. Nous, on a vu les plateaux repas qu'on venait pas retirer parce qu'on voulait pas entrer dans la chambre du malade. Les draps en papier. Puis pour entrer dans la chambre du malade, il fallait mettre un bonnet, des chaussons, sans mitoufler. On ne savait pas si c'était pour protéger l'immunodépression du malade ou se protéger soi, c'était très très ambigu. Hein, on était habillés comme des cosmonautes, on savait pas très bien qui est protégé qui. Donc il y avait véritablement une peur de cette maladie et c'était ça l'enjeu. Véritablement, en France, on est très bien équipé pour le soin, très mal pour la prévention. Et il a fallu véritablement initier la prévention, une politique de prévention. Et on a eu du mal. Rappelez-vous quand même que les préservatifs étaient interdits de publicité. Quand on pense qu'on est passé de l'interdiction de publicité au mariage gay en 30 ans, vous voyez quand même un peu, on pensait qu'on était dans une société laïque, pas tant que ça. Des interdits religieux intervenaient dans un tas de situations. Et il a fallu véritablement, moi je trouve que c'est du... Je m'amuse toujours depuis des années à opposer deux images, l'infirmier ou l'ambulancier déguisé en cosmonaute et le préservatif qu'on propose à une personne séropositive. C'est-à-dire qu'on réintroduit une personne séropositive dans le circuit de la sexualité, alors qu'autrefois, on l'excluait totalement du circuit social.
Daniel Defer, lorsqu'au tout début de l'entretien, vous avez évoqué votre envie de créer cette association, vous avez dit je savais faire. Est-ce que dans ce savoir-faire-là, il y a aussi la confrontation? Moi, ça m'a frappé dans votre livre. Enfin, la confrontation à la souffrance des gens. Vous racontez que vous recevez des coups de fil, hein, quelqu'un qui va pas bien du tout, qui dit avoir un couteau. Et ben ces gens-là, vous allez les voir, vous les rencontrez en pleine nuit. Enfin vous y allez, vous êtes sur le front. Et ça vous saviez faire ou ça ne vous a jamais posé de problème?
Bon, c'est une histoire assez drôle, celle-là, pathétique et drôle. C'était un jour de Toussaint. On pense forcément à la mort. Et je crois bien que je revenais peut-être du cimetière où était mon père, je ne sais plus. Je crois bien. En tout cas, j'y avais pensé. Et le téléphone sonne, ici, 10 heures du soir. Voilà, j'ai avalé des médicaments, je suis en train de mourir, je ne veux pas mourir seul. Si j'avais pas été militant de aide, j'aurais peut-être accroché. Ce que beaucoup de gens avaient fait, m'a dit ce jeune homme. Parce qu'il avait déjà fait plusieurs coups de téléphone. Je croyais qu'il m'appelait parce que c'était aide. C'était pas le numéro de aide, c'était le mien, mais je pensais qu'il m'appelait. Non, il a dit qu'il avait fait le numéro au hasard.
Ah,
au hasard.
D'accord.
Apparemment, c'était vrai. Qu'il avait fait plusieurs numéros, que tout le monde l'avait raccroché. Et moi, j'avais justement appris à San Francisco, en visitant l'association Shanti Project, une des grandes associations San Francisco de lutte contre le sida, qu'on était responsable des gens qui se suicidaient aux États-Unis, qu'il fallait donc savoir gérer. Et il m'avait donné un certain nombre d'informations. Donc je me sens obligé de répondre à ce garçon, en plus c'est tout. Mais c'est vrai que je voulais faire mon apprentissage. C'était pas mon humanité spontanée, c'était vraiment il faut savoir faire, quoi. Il y a des situations comme ça où j'aime bien apprendre à la gérer. Et je commence à discuter avec lui. Je me dis faut gagner du temps déjà. Je lui propose de venir, je me propose d'aller le voir. Il me dit non, vous allez amener les flics. Je lui dis non. Il propose de venir ici. Il me dit non. On discute un peu. Puis j'avais appris qu'il fallait savoir si les gens avaient déjà tenté de se suicider, parce que ça permettait d'apprécier à la fois leur savoir-faire et leur intention, la profondeur de l'intention de se suicider. Alors je lui pose des questions, comme ça, un peu comme j'avais appris à faire. Vous avez déjà tenté de vous suicider? Et il me dit oui, en me coupant les veines des poignets. Et j'ai une espèce de réflexe, comme ça. Je dis, mais c'est en prison qu'on fait cela. Je connaissais ça. Et il me dit, comment tu sais ce qu'on fait en prison? Je lui dis, j'ai milité avec des prisonniers. Et il me dit, j'étais en prison en Italie. Et il me dit, j'étais avec l'OTA Continua. Or, l'OTA Continua avait été un de nos modèles dans l'histoire du GIP. Alors je lui dis, mais, et tu connais Sotar Nicolas, qui était un des grands détenus de cette époque-là? Il me dit, salaud, tu me redonnes goût à la vie. Alors je sens que c'était un peu gagné, que finalement, donc on discute. Et puis au bout d'un moment, je sens qu'il y avait assez de complicité pour lui dire, mais je peux venir chez toi, parce qu'il a commencé à me tutoyer, je peux venir chez toi. Puis il me dit, tu vas venir, si tu viens avec les flics, je te signale, j'ai un couteau et je me poignarde. À ce moment-là, j'éclate de rire, parce que ça durait déjà depuis au moins une heure, la conversation. J'écoute, espèce de con, si t'as un poignard, tu t'en sers, tu me fous la paix au lieu de parler de médicaments. Alors il me dit, tu me plais. j'y vais. Et je vais le voir, et je trouve un repenti, belgo-italien, qui vivait à Paris et qui était un repenti. Alors les repentis, c'était assez difficile, parce que les repentis, c'est ceux qui avaient été amenés à coopérer avec les services. Et donc, ils avaient une culpabilité. Ça, je comprenais que sa vie n'était pas si facile. Moralement, pour lui, son rapport à lui-même était très, très problématique. Et voilà. Non, ça a été très intense. Malheureusement, j'étais tellement occupé à aide que quand il me rappelait, j'étais jamais là. Et je ne l'ai jamais revu.
Mais vous avez de l'humour en racontant cet événement, mais vous avez aussi de l'humour lorsque vous parlez des médecins que vous recrutez, l'humour des médecins aussi, sur leur physique, quand ce sont de beaux médecins, vous plaisantez, ah, comme ça, ça va attirer du monde. Vous arriviez à garder une légèreté.
Bon, on était quand même jeunes, était quand même jeunes. Si vous voulez, c'est vrai que les gens qui arrivaient aux réunions de aide disaient qu'ils étaient très surpris, ils s'attendaient à trouver des gueules de crotte-morts.
Oui.
Et puis finalement, bon, ben, on faisait face. Hein. On n'aborde pas la maladie grave en se faisant uniquement... Il y a l'espèce d'ironie dure. Hein. C'est aussi comme ça qu'on affronte la mort. Hein. Vous savez, tout le monde sait que dans les deuils, on a des fous rires. C'est rare qu'on n'ait pas un souvenir de fou rire à un enterrement. Il y a un moment où l'angoisse, faut en sortir. Et c'est vrai que on n'était pas... Alors, on allait faire de la prévention dans les bars. Et Jean-Florian, qui était...
Les Barguets.
Dans les Barguets,
les bars
de Paris.
Oui,
tous les bars du Marais. Mmh. On allait dans les Barguets et Jean-Florian, Métetal et Frédéric Edman, qui étaient deux très beaux garçons... Hein, ils avaient une trentaine d'années, ils avaient des couleurs d'yeux, l'un avait les yeux bleus, très bleus, on mettait des t-shirts assortis, l'autre je ne sais plus s'ils étaient marrons, ça, mais enfin ils avaient toujours des t-shirts qui les mettaient en valeur, et les gens venaient à nos réunions, pas seulement pour entendre parler de la pathologie, mais pour voir ces beaux mecs, et puis en même temps, qu'est-ce qu'on faisait? On apprenait aux gens à faire l'amour sans risque. Hein, et le problème, c'était pas seulement de leur parler de la pathologie. Si on était dans les Barguets, c'était pour leur dire aussi que la maladie, ça peut s'éviter. On leur apprenait à poser un préservatif et pas à employer des produits lubrifiants qui rendaient le préservatif poreux. Toutes ces choses-là, il a fallu qu'on les apprenne. Le préservatif était encore interdit. On pouvait même pas en faire la publicité à la télévision. Hein, on a fait des films sur les préservatifs, on a fait des films sur le nettoyage des seringues à l'eau de Javel pour qu'elles soient stérilisées. Les seringues n'étaient pas en vente libre. Il fallait avoir une ordonnance médicale, alors en général de diabétique, pour avoir des seringues. Donc les gens n'avaient pas d'ordonnance, ils gardaient leurs seringues, ils les partageaient, et c'est comme ça qu'ils se transmettaient le virus. Hein, parce que comme vous voulez voir que vous êtes bien dans votre veine, donc vous faire entrer du sang dans votre seringue, et il en reste toujours, et il reste du virus. Donc vraiment, tout ça, on était obligé de l'inventer, de le transmettre, alors que la législation nous permettait pas de le faire, et que les ministères ont hésité. Enfin quand même, les socialistes à l'époque n'ont pas voulu modifier la législation sur les préservatifs, ni sur les seringues. Hein, c'est quand même Michel Barzac, quand la droite est revenue au pouvoir, qui a fait le premier programme de mise en vente libre des préservatifs.
En 86.
En 86. Et puis les seringues à titre expérimental en 87 et 88. Hein, ensuite, ça a été continué. Mais enfin, tout ça, ça a été long à mettre en place. Donc l'épidémie, elle a continué à galoper.
Merci Daniel Defer.
C'était À Voix Nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Daniel Defer. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Yves Lehor. Réalisation, Laetitia Coya. Coordination, Sandrine Trainer. Demain, suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Daniel Defer.